Matthieu 16, 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ?» leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Amen. Qui suis-je d'après les hommes ? L'opinion publique, la voix du peuple, elle est parfois fausse, peut-être souvent, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes Internet, il y a YouTube. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Mais le bouche à oreille fonctionnait. Et lorsque quelqu'un était témoin de quelque chose, eh bien, il le racontait à son voisin, qui le racontait à son voisin, qui le racontait à son voisin. Alors, il pouvait y avoir quelques imperfections dans les rapports, il pouvait y avoir quelques déformations. Hein, c'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. C'est comme ça que l'ours bleu du Tibet est devenu le Yéti. Il peut y avoir des déformations. Et la voix du peuple et la voix de Dieu. Vox populi, vox dei. C'est un conseiller de Charlemagne qui est à l'origine de ce dicton, de cette formule, mais absolument pas pour en faire une vérité. Au contraire, pour la dénoncer. Pour lui, il a écrit « Le peuple doit être dirigé selon les lois divines et non être obéi, car la vocifération d'une foule est toujours proche de la folie. » Je vous laisse, hop, fermeture de la parenthèse citation historique. Je vous laisse réfléchir là-dessus. « Qui suis-je d'après les hommes ?» Et les disciples rapportent à Jésus l'opinion publique, ce qui se dit, ce que dit la foule, la rumeur pour le peuple. Jésus est l'un des grands prophètes revenus à la vie. Ils reconnaissent en lui quelque chose de surnaturel, quelque chose qui vient de Dieu. Pour eux, c'est un prophète, quelqu'un qui est revêtu de l'autorité divine et qui est chargé d'annoncer au peuple, d'instruire, de communiquer la volonté de Dieu. Et même Dieu, par son intermédiaire, l'intermédiaire du prophète, va faire des miracles. Un prophète revenu à la vie. Pourtant, lorsqu'on lit les Écritures, et je ne sais pas si le bouche à oreille a fonctionné, mais pourtant Jean-Baptiste désigne Jésus comme le Messie. Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Dieu lui-même, lorsque Jésus va se faire baptiser dans le Jourdain, des mains de Jean-Baptiste, Dieu lui-même va proclamer de façon audible à tous, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Qu'est-ce que vous entendez dire de Jésus autour de vous? Qu'est-ce que vous entendez dire de Jésus autour de vous? Que disent nos contemporains de Jésus? Quelle est la rumeur publique à son sujet? Certains n'en ont jamais entendu parler. Certains ne savent pas qui c'est. D'autres refusent complètement que Jésus puisse être le Fils de Dieu. Et déjà à l'époque, c'était le cas. Jésus répondant au souverain sacrificateur Caïphe, qui va lui demander qui il est, Jésus va se présenter comme le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. Et qu'est-ce qu'il va faire, le grand prêtre? Il va accepter cela? Il va reconnaître cela comme réel? Absolument pas. Il va déchirer ses vêtements. Et peut-être que lorsque vous parlez de Jésus à quelqu'un, ils ne déchirent pas leurs vêtements, parce que ça ne se fait plus, mais peut-être qu'ils partent. Peut-être qu'ils vont se boucher les oreilles. Arrête de raconter n'importe quoi. Mais ça, c'est des histoires pour les enfants. Ça, c'était ce qui se disait autrefois. On est au 21e siècle maintenant. C'est fini tout ça. C'est des histoires. C'est des contes. C'est des fables. Après la mort de Jésus, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui affectés à sa garde vont déclarer assurément cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Jésus ne laisse pas indifférent. Jésus ne laisse pas indifférent. Et souvent, il n'est pas reconnu pour ce qu'il est, soit par ignorance volontaire, soit par incrédulité, soit par manque de foi, soit par incompréhension. Qui suis-je d'après les hommes? Et Jésus d'enchaîner, et d'après vous, qui suis-je? Et d'après vous, qui suis-je? Qui est Jésus pour vous? Dites-moi. Ce n'est pas une question qui est très compliquée. Vous pouvez m'apporter quelques réponses. Qui est Jésus pour vous? Le Sauveur? Le Seigneur? Le Fils de Dieu? Vous avez compris des choses déjà. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et au verset 17, Jésus dit ceci, « Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Dieu a ouvert le cœur de Pierre pour qu'il reconnaisse Jésus pour ce qu'il est, le Fils de Dieu, le Messie, le Christ. » La déclaration de Pierre, ce n'est pas simplement une déclaration intellectuelle, une affirmation purement intellectuelle, une déduction logique de ce qu'il connaît de Jésus, de ce qu'il a vu faire, de ce qu'il a vu vivre. Ce n'est pas quelque chose de la raison simplement. Non, c'est une confession personnelle de sa foi. Et si ce matin vous avez pu dire « Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Sauveur, Jésus est le Christ », c'est parce que vous l'avez cru et que vous l'avez expérimenté. C'est parce que Dieu, dans sa grâce, vous a permis de saisir cette vérité. Parce que Dieu a décidé que les hommes seraient sauvés par quoi ? Par la foi. Par la foi. Si Dieu avait voulu qu'on soit sauvé par une démonstration intellectuelle, eh bien, il aurait prouvé, il aurait démontré qu'il était Dieu, que Jésus était son Fils. Mais non, la Bible nous enseigne que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Jean chapitre 12, verset 44, « Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 6, verset 14, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Éphésiens 2, 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Par le moyen de la foi. Jésus est le Fils de Dieu. Et il n'y a aucun autre moyen d'accès au ciel. On ne vient au Père qu'en passant par moi, dit Jésus. Si comme Pierre, tu peux dire que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse parce que tu es sauvé. Et si c'est quelque chose que tu ne peux pas dire, demande à Dieu ce matin de te permettre par la foi de saisir cette vérité. Parce que c'est la vérité. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si tu veux être réconcilié avec ton Père, si tu veux avoir accès au ciel, il faut que tu passes par lui. Il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Il faut que tu reconnaisses que Jésus, le Fils de Dieu, est mort à ta place sur la croix. Il faut que tu l'acceptes par la foi. N'attends pas quelque chose d'extraordinaire. N'attends pas une démonstration extraordinaire. C'est lorsque tu l'auras accepté par la foi qu'alors tu vivras quelque chose d'exceptionnel, qu'alors tu connaîtras la paix, qu'alors tu connaîtras le pardon de tes péchés. Accepte le Fils de Dieu mourant sur la croix pour tes péchés et sois sauvé. Réconcilié avec Dieu le Père. Si Dieu me demande de dire cela ce matin, c'est parce qu'il y a au milieu de nous des hommes, des femmes qui n'ont pas encore reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu. Dieu te donne ce matin cette occasion de le faire. Tu peux ressortir de ce lieu en étant sauvé. Tu peux ressortir de ce lieu en ayant tes péchés pardonnés et en ayant la vie éternelle. C'est de toi que ça dépend. Saisis ce matin la main que Dieu te tend. Saisis ce matin le salut que Dieu t'offre. Pierre a confessé sa foi en reconnaissant Jésus comme le Messie. Pour connaître quelqu'un, je l'ai déjà dit, il faut passer du temps avec lui. Personne ne me connaît mieux que mon épouse. Parce que c'est celle avec qui je passe le plus de temps. C'est celle qui me voit quand je suis au volant de la voiture, c'est celle qui me voit quand je suis fatigué, c'est celle qui me voit quand je suis dans la joie, c'est celle qui me voit quand je suis dans la tristesse. Et quand on voit vivre quelqu'un, c'est là qu'on connaît sa personnalité, c'est là que se révèle ce qu'on est réellement, c'est là qu'on peut donner les caractéristiques de quelqu'un. Et si la personnalité de Jésus, le fait qu'il est le Fils de Dieu, ça a été révélé à Pierre par une action de Dieu dans son cœur, et Pierre l'a saisi par la foi, néanmoins quand même, Pierre, il connaît Jésus. Parce que depuis qu'il a été appelé pour le suivre, depuis qu'il a été appelé comme son disciple, il l'a vu vivre, il a entendu ses prédications, il a entendu ses enseignements, il a été le témoin de tous les miracles réalisés. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Dites-le-moi. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Pourquoi Dieu s'est fait homme? pour nous sauver, principalement pour nous sauver. Christ est venu pour enlever le péché, pour détruire les œuvres du diable. Il est aussi venu pour révéler le Père. Dans l'Ancien Testament, Dieu, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu saint, le Dieu souverain, le Dieu puissant, le Dieu bienveillant. Et la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Parce que Dieu, il est tellement grand qu'un œil humain, qu'un esprit humain ne peut le voir. C'est quelque chose qui nous est impossible. Personne n'a jamais vu Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était un Dieu qui était au ciel. Mais en Jésus, Dieu a pris la forme d'un homme qui est venu sur la terre, qui est venu vivre au même endroit que nous, qui est passé par les mêmes difficultés que nous, les mêmes épreuves que nous. Jésus est à la fois Dieu et homme. En Jésus, Dieu s'est révélé d'une manière accessible à nos sens humains, compréhensible, visible. Nos sens sont tellement limités. Nous n'en avons que 5. Ils sont tellement limités. Mais ils sont suffisants pour reconnaître Dieu en Jésus. Jean chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, Jésus, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Faisons une lecture dans l'évangile de Jean, s'il vous plaît, au chapitre 14 et au verset 8. Jean 14, 8. Jean 14, 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus, c'est l'image visible et matérielle du Dieu invisible, de son Père. Alors qu'est-ce que Jésus a montré de Dieu sur terre ? Qu'est-ce qu'il nous a permis de saisir de la personnalité de Dieu, des caractéristiques de Dieu ? Jésus, il était parfaitement saint. Parce que s'il a connu tout ce que nous avons connu, il y a une grosse différence entre lui et nous. C'est que lui n'a jamais péché. Lui n'a jamais succombé à la tentation. Il a été tenté, mais il n'y a jamais succombé. Jésus était saint par nature. La Bible dit que le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Satan n'a aucun pouvoir sur Jésus. Il était sans péché. En effet, nous n'avons pas un souverain grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre le péché. Hébreux 4, 15. Jésus était parfaitement saint et Jésus faisait toujours ce qui était agréable à son Père. « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ça, c'est le rêve de tout père, hein, d'avoir un fils qui fait toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que vous avez toujours fait ce qui était agréable à votre Père ? Jésus, c'est ce fils parfait qui a toujours fait ce qui était agréable à son Père. Jésus était rempli d'amour. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. En premier, il aime son Père. Mais il aime les hommes. Quand il regarda le jeune homme riche, la Bible nous dit qu'il l'aima. Il aime les hommes. On l'accusa d'être l'ami des publicains, d'être l'ami des gens de mauvaise vie. Pourtant, il a tant aimé ceux qui étaient perdus qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il a donné sa vie pour eux. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il aime ceux qui lui appartiennent, puisque la Bible nous révèle que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est rassurant, ça. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Il était parfaitement saint. Il était rempli d'amour. Il était humble. Il est né dans une étable. Il n'avait pas où poser sa tête quand il voyageait. Il n'avait pas d'argent sur lui. C'était des femmes qu'il avait guéries, qu'il avait délivrées, qui subvenaient à ses besoins. Pour payer la taxe, il va demander d'aller pêcher un poisson pour trouver la pièce. Jésus était humble. Il a lavé les pieds de ses disciples. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable, ça ? Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, lui le Maître, il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est laissé oindre par une femme pécheresse. Et bien qu'étant leur Maître, il appelait ses disciples ses amis. Les disciples de Christ étaient appelés par lui-même ses amis. Il s'est dépouillé en devenant semblable à nous, en devenant semblable aux hommes. Et il est allé jusqu'à la mort de la croix. Mais quelle mort ignominieuse pour le Fils de Dieu, pour celui qui était saint, pour celui qui était pur, pour celui qui était parfait. Il a été fait péché. Le Père a détourné les regards de lui. Il était humble. Il a tout accepté. Par amour pour nous, par amour pour toi, il a tout accepté. Il a même été enseveli dans un tombeau emprunté. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus était quelqu'un de doux. Jésus était quelqu'un d'équilibré. Il n'était pas austère, il n'était pas farfelu. Il était équilibré. Il a vu une vie de prière intense. Et dernière caractéristique, on aurait pu encore en dire d'autres, mais dernière caractéristique de Jésus, il travaillait sans cesse. Il travaillait sans cesse. Il commençait tôt le matin, poursuivait tard le soir. Il oubliait de manger, il oubliait de se reposer. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il enseignait, il prêchait, il guérissait les malades, il délivrait les, il chassait des démons, il sauvait les perdus, il ressuscitait des morts, il formait ses disciples. Ce sont des choses qui sont hors de notre portée. Nous ne sommes pas forcément tous appelés à cela. Mais nous sommes appelés à servir notre Maître de toutes nos forces et de tout notre temps disponible. Amen. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il fait encore jour. On ne sait pas pour combien de temps. Nous devons nous presser de travailler pour notre Père. Christ est notre exemple de perfection. Il est la perfection absolue. Et oui, nous voyons son Père en lui. Oui, nous voyons qu'il est le Fils de Dieu. Permettez-moi de vous poser une question ce matin. Qui est votre Père? Qui est votre Père? Dieu. Nous avons tous un père terrestre, que nous le connaissions ou pas, qu'il nous aime ou pas, que ce soit un bon père ou un mauvais, nous avons tous un père terrestre, mais nous avons un père céleste aussi. Qui est notre Père? Romains chapitre 8, verset 15. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Amen. Alors la question que Dieu nous demande de nous poser ce matin, c'est « Mon Père est-il visible en moi ?» Il était visible en Christ. « Mon Père est-il visible en moi ?» Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Christ, on voyait le Père en Christ. Christ doit être vu en moi. Christ doit être vu en moi. Alors, nous n'arriverons jamais à être ce que Christ a été sur la terre avant de ressusciter et de retourner au ciel. Nous n'arriverons jamais à atteindre cette perfection dans tout ce qu'il accomplissait. Mais ce doit être notre idéal. Ce doit être notre objectif. Christ est notre modèle. Nous ne devons pas en avoir d'autres. Christ est notre modèle. Il était parfaitement saint, rempli d'amour, humble, doux, équilibré. Il avait une vie intense de prière et il travaillait sans cesse pour son Père. Dieu était vu en Christ. Christ doit être vu en nous. Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. C'est un honneur d'être appelé enfant de Dieu, mais c'est aussi une responsabilité. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et qu'est-ce que j'ai à apporter au monde, moi? Christ, le salut par grâce. Vous êtes la lumière du monde. Qui suis-je? Qui dit-on que je suis? Est-ce que vous savez qui vous êtes? C'est important de savoir qui on est. Hein? Vous savez qui vous êtes? Vous êtes un enfant de Dieu, racheté par grâce, sauvé par amour. Et les autres, est-ce qu'ils savent qui vous êtes? Si on pose la question, qui sait? J'espère que leur réponse, pour chacun d'entre nous, ils diront, c'est un disciple de Christ. C'est un disciple de Christ. Être comme Jésus, c'est hors de notre atteinte. Et si nous essayons avec nos propres forces, nous n'y arriverons pas. c'est le Saint-Esprit qui assure notre transformation progressive à l'image de Christ. Mais néanmoins, cela ne se fera pas sans effort de notre part, et cela ne se fera pas sans que nous le voulions. Cela ne viendra pas de nous, mais cela va demander des efforts de notre part et une volonté de notre part. Est-ce que Dieu vous a déjà demandé de faire des choses? Est-ce que Dieu vous parle? J'espère que oui. S'il ne vous parle pas, ce n'est pas qu'il ne vous parle pas. C'est que vous n'entendez pas. C'est que vous n'écoutez pas. Parce que Dieu parle. Il parle par sa parole. Il parle par son esprit dans notre cœur, dans nos vies. Il parle par des circonstances. Il parle par des épreuves. Dieu parle. Et Dieu nous demande de faire des choses. Et parfois, c'est très précis. Dieu nous demande de faire des choses pour son service. Dieu nous demande d'abandonner des choses qui nous prennent trop de temps, qui ne sont pas à sa gloire, qui nous empêchent d'avoir une communion véritable avec lui, qui font des interférences dans notre relation avec Dieu. Dieu nous parle et il nous demande des choses. Quand Dieu demande quelque chose, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que sinon, on va être coupé, arrêté net dans notre progression. Alors heureusement pour nous, Dieu, il est plein d'amour et il est patient. Et parfois, on ne fait pas tout de suite ce qu'il nous demande. Alors Dieu, il est patient, il attend. Et parfois même, il nous répète les choses. Si on n'a pas compris une fois, il nous le répète une deuxième fois. Mais il faut faire. Il faut faire ce que Dieu nous demande. Il faut obéir. Si nous obéissons, nous progressions. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous voulez, frères et sœurs, être la lumière du monde? Remplir ce témoignage, accomplir ce à quoi nous avons été appelés. Il faut que Christ soit vu en nous, dans notre vie, dans nos actions, dans notre témoignage verbal, mais dans notre témoignage vivant. Il faut que Christ soit vu en nous. Il faut que l'Église soit la lumière du monde. Et pour que l'Église soit la lumière du monde, il faut que moi-même, je sois une lumière. Il faut que j'attire les perdus à Jésus. Il faut que je donne envie. Plus nous suivrons Christ de près, plus nous lui ressemblerons. C'est un challenge de ressembler à Christ. C'est un challenge que Jésus soit vu en nous. Il faut le relever. Il faut le relever. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si tu ne peux pas encore dire la même chose que Pierre, saisis-le par la foi. Je le répète, il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de faire l'expérience du salut. Crois que Jésus est le Fils de Dieu. Crois qu'il t'aime. Crois qu'il est mort pour tes péchés. Et tu seras sauvé. Si c'est ce que tu crois, que Jésus est le Messie, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, il doit être reconnu en toi. 1 Jean 2, 6, celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Vous êtes prêts à relever le défi avec l'aide de Dieu? Amen. Il nous le demande ce matin. Relevons le défi.